appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Ouverture de la session parlementaire à RDC, c'est 15 septembre 2018 à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est la dernière session avant l'élection du 23 décembre 2018 et la fin d'une législature qui a débuté en 2013. Cinq ans après, quel est le bilan de cette législature finissante? Comment exprimez-vous, commentez et exprimez-vous vos préoccupations autour de ces sujets à l'adresse pa@radiookapi.net et rejoignez nous en direct au 081 890 63 30 ou bien au 09 97 06 89 69 pour votre intervention en direct. Jean-Noël Mokondo, Pierrot Elamegi et Nico Kalambay concourent à la production de ces magazines, supervisés par Martin Sebujangwe et coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci encore de votre fidélité.
Radio Okapi.
À Béni,
Okapi.
Sur 92 FM.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Moïse Nyarugabu, bonjour. Honorable Moïse, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes rapporteur adjoint au niveau du Sénat. La rentrée parlementaire, c'était ce week-end. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette rentrée?
Ben, écoutez, c'était d'abord un moment de retrouvailles entre les collègues après deux mois de vacances parlementaires parce que nous avons eu une session extraordinaire en juin. Mais aussi les discours qui ont été prononcés au Sénat, c'était pour rappeler aux sénateurs qu'il faut vite travailler parce que la session ne sera pas longue, ne sera pas entière, elle risque d'être si pas clôturée, mais on pourrait arrêter le travail avant pour libérer les collègues qui sont des candidats, alors qu'à l'Assemblée nationale c'était pratiquement un discours bilan sur les 5 ans ou les 6 ans qui se sont écoulés. L'ambiance était comme d'habitude, bon enfant, et voilà.
Alors, est-ce que vous partagez cet avis lorsque les uns disent que c'est la dernière session?
Non, il ne peut pas en être autrement. Je partage parce que dès lors que nous avons des élections qui vont intervenir le 23 décembre de cette année, lorsque nous clôturons le 15, parce que même si les gens vont en campagne, la session ne va pas être clôturée parce que la Constitution ne nous le permet pas. On va peut-être arrêter le programme, on va arrêter les plénières, mais il faudra la clôturer le 15 décembre avec ceux qui seront présents sur place. Et la session qui ne doit reprendre que le 15 mars, naturellement, lorsque vous regardez le calendrier de la CENI, en somme, là, c'est la nouvelle Assemblée nationale qui sera déjà mise en place. On aura eu le temps de finaliser les élections, de proclamer les résultats et peut-être de convoquer déjà la session extraordinaire au cours de laquelle on procède à la validation des mandats, validation des pouvoirs et par un bureau provisoire et proclamer l'élection du bureau définitif. Et c'est en ce moment-là peut-être que va s'ouvrir la session ordinaire de mars.
Merci.
Ce sera la nouvelle configuration ou la nouvelle Assemblée nationale.
Voilà.
Ce ne sera pas encore le cas certainement avec le Sénat, parce que là, il faut attendre que
Oui, allô? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de notre invité. Il est temps de rappeler que nous sommes en train de parler de la session parlementaire qui s'est ouverte le 15 septembre 2018 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, on dit déjà que c'est la dernière session avant l'élection du 23 décembre 2018 et la fin d'une législature qui a débuté en 2013 pour l'Assemblée nationale et la fin de la deuxième législature pour le Sénat. Voilà, donc 5 ans après, pour l'Assemblée nationale, quel est le bilan de cette législature? Et 12 ans après, quel est le bilan de cette législature au niveau du Sénat? Commentez et exprimez vos préoccupations autour de ces sujets. Je l'ai dit à l'adresse pa@radiocapi.net et rejoignez-nous à en direct au 081 890 63 30 ou bien au 09 97 06 49 69.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous venons de suivre là notre invité qui évoquait les enjeux de cette rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau du Sénat. Il a reconnu tout de même que c'est la dernière session en ce qui concerne d'ailleurs l'Assemblée nationale parce que les élections, l'élection présidentielle et législative nationale seront organisées déjà d'ici au 23 décembre 2018 et après pour la session de mars, il est tout à fait évident que c'est une autre représentativité de l'Assemblée nationale, ou une autre composition, une autre configuration au niveau de l'Assemblée nationale qui sera mise en place. Alors, je crois que notre invité est à nouveau en ligne. Voilà, donc, honorable Moïse Nyarugabe, vous êtes à nouveau en ligne.
Je suis là.
Alors, d'entrée, déjà, pour aller vite, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les deux législatives passées, du moins pour le Sénat, et une législative pour l'Assemblée nationale, ont tout de même réformé la RDC?
Absolument. On n'arrête pas de réformer. On ne finit pas d'ailleurs. La réforme, c'est une matière continue, c'est un processus, et d'ailleurs on reforme encore, mais lorsque je regarde sur l'essentiel, je crois qu'il y a beaucoup de décisions, beaucoup de lois qui ont été votées, qui portent sur les réformes. Quand je vois du côté judiciaire, c'est ce mandat qui a vraiment mis en place la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation, donc la mise en place du nouvel ordre judiciaire qui est parti d'une seule Cour suprême avec un seul parquet général de la République en trois. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Du côté de l'enseignement, même chose. Du côté de la territoriale, même chose. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de réformes, et même au niveau du côté de la loi des finances ou de l'enseignement, du côté de portefeuille. Dans tous ces domaines, il y a eu des lois, des réformes. Mmh. Et la question qui reste, c'est plutôt au niveau de la mise en application. Est-ce que
voilà. Ben alors parce que avant d'y arriver, on sait que vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, cette rentrée a été plutôt une rentrée bilan dans les discours du président de l'Assemblée nationale, Obemi Nakou. On note aujourd'hui, de 2011 à 2018, l'Assemblée nationale a voté 183 lois et 100 recommandations. Au niveau du Sénat, qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
En fait, les lois que nous votons, c'est le même nombre. D'ailleurs, quand je vois dans sur notre liste, moi, je me rends compte qu'on a voté 186 lois. Alors, je ne sais pas s'il y a des lois que nous avons votées qui sont encore au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est plus ou moins le même nombre de lois parce que les lois doivent être votées par les deux chambres pour être promulguées. Donc, au niveau de la législation, c'est plus ou moins la même chose. Et
Au niveau du contrôle parlementaire, parce que
les lois commencent soit à l'Assemblée nationale, et elles vont au Sénat après, et soit elles commencent par le Sénat, et elles vont à l'Assemblée nationale après. Donc c'est le même nombre de lois que nous avons.
Alors si, honorable sénateur, à quoi vos propos, aujourd'hui, la RDC possède un arsenal important de lois, mais quel est son impact sur le vécu quotidien? Parce que vous parlez de l'application.
L'impact, à mon avis, le bilan de l'application des lois est mitigé, à mon avis. Parce qu'il y a des lois que nous avons votées il y a quelques années, pour lesquelles il n'y a pas encore eu de mesures d'application. Parce que quand on vote les lois, il revient au gouvernement d'adopter de mesures d'application. Mais il y a des lois dont les mesures d'application n'ont pas encore été adoptées, il n'y a pas encore d'arrêté portant exécution ou application des lois, et là, ça retarde et l'application et l'impact sur les domaines pour lesquels la loi a été votée. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'appeler au gouvernement de faire un double effort afin que les lois ont été votées soient appliquées.
Alors, c'est selon nos informations, lors de la première législature de la Troisième République congolaise, seule une motion de défiance contre l'actuel ministre des Communications était examinée en plénière, contre 9 pour la deuxième législature. Et au niveau du Sénat, et c'est aussi trop faible le contrôle parlementaire. Et c'est lié à quoi, tout à fait, c'est faible contrôle parlementaire? C'est dû à quoi, selon votre regard?
Non, je pense que là, ce n'est pas très exact ce que vous dites. Si à l'Assemblée nationale, il y a eu 9 motions de censure qui ont été soumises...
En plénière.
Même si aucune n'a abouti à ce que le gouvernement soit renvoyé ou un ministre, une motion de défiance. Mais je veux dire que le Sénat n'a pas cette compétence. Mmh. La Constitution de la République a reconnu cette compétence de voter des motions de défiance et de censure qu'à l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas cette compétence et c'est la volonté du constituant. Par contre, le Sénat se limite à organiser le contrôle parlementaire par des questions orales, mmh, avec débat ou sans débat, avec des questions écrites. Et cela a été fait. Je me souviens qu'il y a eu des questions sur la sécurité ou l'insécurité dans certaines parties du territoire. Il y a eu des questions sur l'état de l'enseignement et ses multiples défis. Il y a eu des questions, si vous vous rappelez, sur le dédoublement des partis politiques,
oui.
Il y a eu des questions sur même l'état des frontières communes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et les Soudan du Sud. Il y a eu des questions sur... le projet Inga, Grand Inga, et beaucoup d'autres. Donc, le contrôle a eu lieu, les questions ont été posées, il y a même beaucoup de questions écrites qui ne sont pas portées au public, parce que quand on envoie la question écrite, on reçoit la réponse, donc il n'y a qu'au niveau de sénateur qu'on est au courant, mais lorsqu'il n'y a pas eu de débat, le public n'est pas au courant. Mais ces questions ont aussi été adressées au gouvernement. Donc, le contrôle parlementaire a été bel et bien fait au Sénat, avec la différence que nous n'avons pas la compétence de clôturer nos questions ou nos interpellations par les motions de censure ou de défiance.
Alors, est-ce que vous avez la même perception des choses lorsque les uns disent qu'à un certain moment, l'inefficacité ou les faibles contrôles parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale seraient dus à, disons, pendant ces deux législatures, il y a eu au moins trois présidents à la tête, au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est cette instabilité qui au fait a été à la base quand même de cette inefficacité au niveau du contrôle.
Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas le porte-parole de l'Assemblée nationale. Mais
juste un regard que vous avez en tant que député aussi.
Je vous demanderai d'interpeller ou de poser la question au rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, parce qu'il y en a et non au sénateur. Mais si je dois donner un avis, je ne pense pas que le fait qu'on ait changé de président d'une chambre, que ça puisse affaiblir la capacité ou la compétence d'interpeller le gouvernement. Bon, il faut peut-être dire deux choses. La première, c'est que, ça c'est mon avis, je crois que l'Assemblée nationale est trop politique. C'est pour cela qu'il y a vraiment beaucoup de tendances vis-à-vis de majorité-opposition. Ce qui est un peu différent au Sénat. Au Sénat, nous sommes aussi politiques parce que nous sommes une institution politique, mais le cadre de travail, la façon dont ça fonctionne, je crois que vous vous rendez compte, c'est quand même différent. Et des fois, vous avez de la peine à savoir qui est de l'opposition, qui est de la majorité. Mais ça, on peut en parler si vous avez besoin qu'on parle du climat du travail, de comment on a fonctionné pendant cette législature. Là, je peux vous donner des détails à ce sujet.
D'accord. Alors, nous vous gardons en ligne, honorable Moïse Nyarugabou. Nous rappelons que vous êtes rapporteur adjoint au niveau du Sénat. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir certains auditeurs qui veulent contribuer dans cette émission et aussi, réfléchir par rapport à cette thématique. Christian est à Bandundouville et allé en Bandaka. Christian, bonjour. Christian, bonjour. Alors, on prend plutôt Alain Bolodjoua qui est en Bandaka. Alain, bonjour. Alain, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec les deux lignes. Il est temps de rappeler nos numéros de téléphone. Le moyen de contact 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Alors Christian, vous êtes en ligne. Bonjour Christian.
Oui, bonjour J.R. et bonjour aux auditeurs.
Est-ce que vous pensez que les deux législatures passées ont pu réformer la RDC après avoir suivi notre invité?
Lungembo, s'il faut dire avec beaucoup de franchisme, je vous dirais que nous avions connu un Parlement qui a battu record en termes d'échecs. Hein. C'est vraiment un échec historique. Vous êtes sans savoir que ce Parlement a été caractérisé beaucoup plus par la rébarbativité, c'est-à-dire le retard à ce qui concerne l'adoption de certaines lois jugées prioritaires pour la bonne marche de la nation. Mais ça n'était pas le cas pour eux. Et en dehors de ça, ce Parlement n'a jamais fait tomber un gouvernement et encore moins un membre du gouvernement. Et donc, du coup, c'est là ce comportement a, en fait, influencé, a été contaminé les assemblées provinciales du pays. Et donc, dans ces assemblées provinciales, le matière qui était aussi jugé d'une extrême priorité n'a pas été en fait travaillé avec une certaine vitesse. Et du coup, tout le pays s'est transformé à une sorte... c'était une certaine politique de contemplation qui a caractérisé toutes nos institutions, et cela émanait d'où? De l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je me dis, est-ce que ça a été réellement un Parlement ou ça a été un club d'amis? Parce que finalement, on se disait, pour adopter une loi ou pour favoriser l'un ou l'autre, c'était en fait de l'argent qui a été circulé. Souvenez-vous, il y a certaines personnes du pays, certaines personnalités du pays ont fait même leur déplacement pour aller là-bas, justement pour faire passer une loi. Alors, si ça n'était pas pour faire passer une loi, comment cette personnalité, je veux dire le président de la République, s'était déplacé lui-même en personne des jours avant l'adoption de la loi? Allez-y penser encore à la loi de 2015. Là, je m'en vais à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait passer cette loi sur le recensement. Et la loi que votre invité, M. Moïse, avait qualifiée, avait dit que dans ces lois, il y avait beaucoup de non-dits. Et que ces non-dits pouvaient porter préjudice à la langue au pays. Mmh. Et du coup, cette loi qui a été passée à l'Assemblée nationale est raison pour le Sénat. Malgré cela, le Sénat se trouve toujours dans le même situation que l'Assemblée, et cette loi avait plongé Kinshasa à fait et à ça.
Oui, mais Christian, notre invité tout à l'heure disait que, contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat n'est pas vraiment du tout politique, mais lorsque vous évoquez ces succès de 2015 avec le Sénat, est-ce que vous n'estimez pas que finalement le Sénat avait pesé sur le plan politique pendant cette législature?
Là, il s'agissait des individualités. C'est en fait comme dans une équipe de football. Vous avez une équipe bourrée des joueurs médiocres. Alors, il y a quelques-uns qui essaient un peu de jouer mieux, et que ce sont ces gens-là qui, lorsqu'il y a des victoires, ce sont ces gens-là qui essaient un peu de faire mieux. Donc, ça a été les individualités, entre autres de lui, M. Moïse, que je salue au passage, et d'autres sénateurs. Et donc, finalement, lorsque Larry aussi a soulevé, le sénateur ne pouvait rien faire d'autre. Parce que souvenez-vous, Lungembo, ce n'est pas une première que le Sénat, que la loi soit renvoyée au Sénat et que cette loi soit passée. Il y a des lois qui ont été renvoyées au Sénat. Mais
Oui, parce que dans les principes, il y a une commission mixte quand il y a des accords entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais à ce niveau-là, c'est comme je l'ai dit, donc vous avez soutenu qu'à un certain niveau, il y a des individualités sur le plan politique qui jouent et qui pèsent. Et ce qui a fait que cela a profité, donc a donné du succès donc au Sénat. Donc vous appréciez le travail qui est fait au niveau du Sénat. Autant vous repoussez quelques ratés au niveau de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, il y a beaucoup de lois, mais l'implication, notre invité aussi l'a reconnu, et qui a même proposé qu'à la longue, on puisse quand même travailler, avoir un mécanisme de contrôle, pouvoir réellement faire preuve de la démocratie, la voie dans laquelle nous nous sommes engagés dans ces pays. Merci beaucoup, Christian. Alors, Alain Bolodjoie, vous êtes en Bandaka, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à vous, Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Quel est votre avis, Alain?
Bon, contrairement à mon prédécesseur, moi j'ai une autre analyse, une autre manière d'évaluer, parce que nous ne pouvons pas prendre des indicateurs dans l'air absolu. Le Parlement, pendant ces deux législatures, est comme un élève qui a 51%, mais qui doit reprendre des classes pour des raisons de conduite. C'est-à-dire quoi, de mon point de vue? Nous devons reconnaître qu'il y a eu des réformes, parce que nous étions dans un État unitaire. Aujourd'hui, nous allons dans un État unitaire fortement décentralisé. On était dans la concentration du pouvoir. Aujourd'hui, on est dans la décentralisation. Il y a eu des réformes au niveau de l'armée. Il y a eu des réformes au niveau de l'administration publique dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous sentons effectivement qu'il y a eu des réformes. Sur ce point-là, c'est positif et nous devons saluer la qualité des parlementaires de manière globale. Mais si nous allons maintenant dans le pourquoi on doit réformer, c'est là où maintenant le Parlement a échoué. Parce que généralement, lorsqu'on nous dit, non, voilà, nous avons eu à légiférer, nous avons donné à l'État les lois, mais pourquoi on donne les lois à la République? Parce que la finalité de l'action gouvernementale ou de l'État, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Mmh. Alors, si nous voyons en termes d'évolution, on se rend compte que pendant ces deux législatures, les seuls bénéficiaires n'ont été que le gouvernement, le Parlement, et dans une faible mesure, certains dirigeants des administrations. Parce que nous avons vu l'évolution exponentielle de la rémunération des parlementaires. On se souviendra pendant la transition, les députés touchaient 1 500. Ils sont arrivés à la fin à 4 000. Aujourd'hui, nous dépassons déjà 15 000. Donc, quelque part, je me dis, le Parlement a échoué là où il fallait plutôt mettre l'accent. Parce que lorsqu'on parle du budget, le dossier budgétaire reste, d'après la Constitution et les lois, le Parlement. Ce sont les parlementaires qui sont l'autorité budgétaire. Or, le budget, c'est un instrument de régulation de la société. C'est grâce au budget qu'on réduit l'inégalité sociale. Or, dans le budget, on voit que le gouvernement fait des dépassements. On voit que le parlementaire gagne plus alors qu'il travaille 6 mois. Donc, quelque part, je me dis, ils ont failli par le simple fait qu'ils n'ont pas atteint l'objectif ultime de loi. Parce que la loi, en fait, devait résoudre le problème de la société. Mais on se rend compte que ces lois-là non seulement ne sont pas appliquées, mais ne sont pas une incidence sur l'amélioration des conditions de vie. Et si nous prenons en termes de les travaux qui ont été menés, on se rendra compte que ce sont le même sénateur et le même député qui interviennent dans toutes les questions. Au Parlement, nous avons 500 personnes, mais nous connaissons tous ceux qui travaillent assidûment, ne sont pas...
Mais Alain, il peut pas tous intervenir, parce qu'il y a des travaux qui sont faits en commission, il y a d'autres qui parlent en commission, pas en plénière, il y a au fait des points qui sont débattus dans des groupes parlementaires, donc le travail, au fait, les règlements donnent à tous les parlementaires de travailler même en commission, pas seulement en plénière.
Moi, peut-être, j'ai eu la chance ou l'avantage d'assister dans certains travaux de commission. Ecofine, par exemple, là où siège le président de mon parti. Nous avons vu cette activité, nous avons y assisté. La plupart de ces gens-là qui font partie des commissions, ils n'apportent rien, substantiellement, ils n'apportent rien. Ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé. Je peux vous citer sur les questions politiques et juridiques. On voit ce salon, on voit Jean-Luc, vous savez, tous ceux qui participent de manière substantielle dans les travaux, sont connus. Et ceux qui dorment dans les plénières sont connus. Mais lorsqu'on fait de manière globale, on se rend compte que non, il y a le Parlement à travailler. Mais sur les 500, c'est peut-être 450 qui n'ont rien fait d'exceptionnel. Alors, prenons en termes de l'individualité. Combien de lois ont été proposées par les individus? S'ils n'ont pas le droit de prendre parole à la plénière, mais ils ont quand même le droit de faire des propositions. Et si nous prenons les résultats, parce que je sais que le gouvernement et la CENI sont des opérations du Parlement. Si le gouvernement a failli, c'est qu'il veut dire le Parlement aussi a failli. Parce que le Parlement, prenons ici l'Assemblée nationale, n'a pas mis l'accent sur le suivi de la mise en exécution de certaines lois.
Pour l'amélioration de la vie.
La rémunération des agents de l'État est débattue pas au niveau du gouvernement, mais au niveau du Parlement. C'est le Parlement qui donne les cultures au gouvernement pour mettre en application les approches ou les idées conçues au niveau du Parlement. Mais lorsqu'il y a exécution, lorsqu'il n'y a pas amélioration des conditions de vie, lorsqu'il n'y a pas la sécurité au niveau national, eh bien, ils doivent reconnaître tout.
Voilà. Alors,
ils ont échoué.
Alors, juste une réflexion, parce que lorsque nous suivons l'actuel directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas les citer, qui dit que c'est vrai aujourd'hui, qui affirme la qualité d'ailleurs, comme vous l'avez dit, la qualité du travail des parlementaires aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de bruit, moins de discussions et des débats interminables avec des piètres résultats, à une législature qui a réformé d'ailleurs les pays, aujourd'hui nous l'avons dit, avec des lois. Et les directeurs de cabinet évoquent notamment des textes emblématiques tels que les lois libéralisant les secteurs des assurances, de l'énergie, mais aussi des réformes de l'appareil judiciaire, la création du Conseil national des droits de l'homme, pour ne citer que cela. Comment vous réagissez?
Bon, il n'a pas totalement tort, mais peut-être lui, là, il utilise d'autres indications ou d'autres indicateurs. Je dis, sur le plan logistique, la qualité de loi, on ne peut pas en débattre. Mais notre problème, c'est par rapport à la vision de l'État. Oui. L'État a éclaté son pouvoir, ce qu'on appelle la division du travail. Le chef de l'État est là pour orienter. Le Parlement est là pour concevoir la politique. Et c'est le gouvernement qui vient avec son draft pour que ça soit validé. Nous, en tant que population, nous ne voyons pas le gouvernement qui est l'émanation du Parlement. Nous voyons nos représentants. Ce sont eux qui sont appelés à sécuriser nos intérêts.
Tout à fait.
Est-ce que sur ces points-là, ont-ils réussi ou pas? Et il faut vous poser la question, dès lors que les inégalités n'ont pas baissé, dès lors que l'amélioration des conditions de vie n'a pas été au rendez-vous, eh bien, ils doivent reconnaître.
C'est l'échec. Merci. Merci beaucoup.
Bien qu'ils ont eu 51%, mais ils
doivent être récalés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Alors, on va prendre Roland qui est à Lubumbashi. Roland, bonjour.
Oui, merci. Bonjour à vous et bonjour aussi à notre invité et aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio pratique que je suis à l'instant.
Quel est votre avis, Roland?
Oui, je dois être d'accord avec le premier intervenant parce que il a totalement raison de la manière que je devais aussi parler. J'ai ce qui est vrai et sûr, c'est que le parlementaire en soi, il a le... C'est un délégué du peuple congolais. C'est un délégué. Or, quand on est un délégué, on doit prendre les soucis de la population pour le mettre à la surface des dirigeants. C'est ce qui est vrai à faire pour un honorable député ou soit honorable sénateur. Donc, par contre, ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Ce que nous voyons, c'est que les sessions qui se sont écoulées étaient juste des sessions où l'Assemblée nationale devrait peut-être adopter les lois qui sont en faveur du gouvernement, qui sont en faveur, n'est-ce pas, de la classe, d'une certaine classe. Par conséquent, le texte ou soit les lois qui sont là pour la pour prioriser la nation, soit pour l'intérêt général de la population, tout ça on mettait de côté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, regardez, nous devons faire la comparaison. D'abord, commençons par l'Assemblée nationale. Parce que si moi je peux dire qu'entre les deux chambres, le Sénat peut avoir quand même une note en faveur. Mmh. Oui. Par conséquent, l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai dit, regardez le temps où M. Kamel, pour ne pas le citer, fut président de l'Assemblée nationale. Vous conviez avec moi que quand on parle d'une motion d'interpellation, d'une motion de censure, ça donnait une autre ampleur. Donc, même nous, les Congolais qui ne pouvaient pas commencer à suivre le plénière, ça nous donnait cette soif-là de suivre. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a eu des gens-là qui ont tué même les notes des coups sur pied, justement parce que c'était les casseurs d'émotions. Donc, ce qui veut dire que, comme l'a dit le premier intervenant, aucun gouvernement n'a jamais été cité. Aucun membre du gouvernement, même juste pour une motion d'interpellation ou soit d'audition seulement, ont cassé tout. Ce qui veut dire, maintenant, on regardait la session qui s'ouvre maintenant hier. C'est une session en turbulence. Parce que les députés nationaux et les sénateurs vont rentrer dans leur circonscription, n'est-ce pas, pour aller se faire élu. Vous êtes vraiment sûr que ces gens-là vont rester...
Voilà, merci beaucoup Roland. Alors, je suis en train de lire sur mon téléprompteur qu'il y a quelqu'un qui fait des réflexions en disant, bon, l'Assemblée nationale notamment a connu 3 présidents tout au long de ces deux législatures, Kamere, Evariste Boshab et Minaku. Et au niveau de la présidence, il y a de cette présidence de l'Assemblée nationale, il y a au moins, en tout cas l'Assemblée a eu la chance d'avoir des juristes, raison pour laquelle il y a eu plus de production législative que les contrôles parlementaires. Et à la prochaine, il faudrait que on tienne compte de ça, qu'on mette à la tête quand même un économiste qui pourrait avoir les soucis de la population. Merci beaucoup Roland d'avoir appelé de Lubumbashi. Merci beaucoup Roland. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter Roland?
Oui, évidemment.
Oui, rapidement, en une phrase.
Oui, en une phrase. S'il parle des juristes, ce qui veut dire que ça devient tout autre chose. Parce qu'actuellement, l'Assemblée nationale, même sur les interventions, les opposants n'ont pas le même chrono que celle-là de la majorité.
Voilà, merci beaucoup Roland. Merci. Voilà, merci beaucoup Roland. Et nous revenons à vous, Moïse Nyarugabo. Vous avez suivi les uns et les autres, pratiquement Alain Bolodjoie et les autres, qui ont donné quand même une note appréciable au Sénat, mais par contre, au niveau de l'Assemblée, c'est vrai, au niveau de la production législative, tout le monde est d'avis qu'il y a effectivement des lois. Mais la plus grande question, c'est l'impact que cela a eu au niveau de vécu quotidien.
Merci beaucoup, j'ai bien suivi. Avant de répondre, je veux dire quelque chose. Je confirme que le Sénat, comme notre président l'a toujours appelé, est une chambre de la réflexion et de la mesure. Ce qui nous a toujours caractérisé, c'est le respect des lois et des autres. C'est l'humilité. On travaille dans un climat de cohésion. Ce climat de travail est basé sur l'intérêt général. Et c'est pour cela que nous avons pris comme base, comme devise, que nous sommes une chambre où on apprend aux autres et où on apprend des autres. C'est pour cela que vous êtes rendu compte, chez nous, on n'applaudit pas, on ne chahute pas, le débat est serein. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que le président vient de dire, vous levez le doigt, on vous donne la parole, vous allez détruire, pas celui qui vient de parler, mais ce qu'il vient de dire, par vos arguments. Et si vous avez raison, on va vous suivre. Ce climat de travail nous permet de faire des analyses en profondeur. Et je crois que vous avez suivi lorsqu'il y a eu une question adressée au Premier ministre sur la conduite de la politique de la nation, c'était un débat pas facile qui a fait le tour des domaines de la nation. Les finances comme la sécurité, l'aménagement du territoire comme la justice. Donc, je confirme que le travail dans ce domaine a été fait. Maintenant, quant aux questions qui ont été soulevées, quelqu'un dit c'est un échec historique parce qu'il y a eu des retards de lois prioritaires et on a fait tomber au camp gouvernement. Je vais rappeler ceci. D'abord, les lois, même si les députés et les sénateurs ont le droit aussi de faire des propositions de loi, mais de manière générale, les lois viennent du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. C'est en fonction de cette politique qu'ils doivent concevoir des projets de loi qui doivent soumettre au Parlement et le Parlement les examine et les adopte. Donc, il y a certaines lois qui ont traîné au gouvernement. Il est possible qu'il y ait une loi ou deux à gauche, à droite, qui n'ont pas été peut-être traitées rapidement, mais de manière générale, lorsque nous recevons les lois, nous les mettons au programme et nous les examinons. Et évidemment, ça passe par les deux chambres et c'est tout un processus. N'avoir pas fait tomber un gouvernement, je ne réponds pas une fois de plus, parce que ce n'est pas de la compétence du Sénat, c'est la compétence de l'Assemblée nationale. On a parlé beaucoup de la loi qui est passée à l'Assemblée nationale contre l'avis du Sénat. C'est la loi de 2015. Mm-hmm. C'est aussi du droit, parce que c'est en fonction de l'article 135 qui stipule que lorsque, après les navettes entre les deux chambres, lorsqu'il n'y a pas harmonisation au niveau de la commission paritaire, et lorsqu'il y a des navettes et on ne trouve pas de compromis, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui est retenu, qui prime. C'est la volonté du constituant. On ne peut pas faire autrement. Alors, la question du budget, la question de l'impact des inégalités sociales, le parlementaire qui est un délégué du peuple, je voulais simplement dire ceci. Effectivement, nous faisons de la confusion lorsque nous pensons que les parlementaires doivent faire des ponts, doivent aménager des routes. Non.
Et apporter des câbles électriques.
Ce n'est pas ça leur travail. Le travail, justement, c'est de voter des lois, dans la plupart des cas présentées par le gouvernement, mais aussi, ils peuvent prendre l'initiative, mais aussi de contrôler le gouvernement. Pourquoi il a fait ci et pourquoi il n'a pas fait ça? C'est ça le rôle du parlementaire. Mais ce n'est pas à lui d'aller appliquer les lois. Ce n'est pas à lui d'aller faire le travail que le gouvernement aurait dû faire ou que le gouvernement n'a pas fait. Mais une dernière remarque. Je voulais peut-être donner une observation générale par rapport à tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont posé des questions ou qui ont fait des observations. Il ne faut pas considérer le Parlement comme une institution qui doit faire de l'opposition au gouvernement. Non. Dans le Parlement, il y a l'opposition, il y a la majorité. Mais comme institution, les institutions de la République, c'est complexe. C'est pour cela qu'on parle de la répartition des tâches. C'est pour cela qu'on parle de la séparation de pouvoir. Mmh. Donc, chaque institution a sa mission, mais elles ne doivent pas s'opposer les unes contre les autres. Par contre, le Parlement, là où je suis d'accord, doit faire, je ne veux pas parler de pression, mais quand il fait le contrôle sur le gouvernement, c'est pour se rassurer que le gouvernement applique les lois et améliore la situation, réduit les inégalités, change la situation des paiements des agents, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le Parlement qui doit le faire. Même les budgets dont on parle, on dit le Parlement est l'autorité budgétaire. Voici ce qui se passe. Le projet du budget vient du gouvernement. Là, au moins, ce n'est pas un sénateur ou un député qui peut prendre l'initiative pour faire une proposition de loi sur le budget. Parce que c'est le gouvernement qui contrôle les ressources, les recettes,
les moyens de l'État. Donc, le projet vient du gouvernement. Et lorsque le Parlement examine ce projet, la plupart des fois, lorsque le Parlement veut augmenter les recettes, le Parlement, le gouvernement dit, on ne saura pas réaliser ces recettes-là. Encore que, même les budgets que nous votons, regardez, ils s'exécutent à plus ou moins 50% ou 51%. Donc, ça veut dire que même lorsqu'on augmente les recettes au niveau du budget, au niveau du papier, mais le gouvernement ne réalise que la moitié. Alors, et là, on va faire quoi? On va dire que le Parlement n'a pas adopté un bon budget lorsque tous les budgets que nous votons sont exécutés à 51%, 52%,
55%? Oui, il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure que les plus grands bénéficiaires aujourd'hui, c'est le Parlement, parce qu'on doit avoir la rémunération, les honoraires parlementaires, c'est pratiquement 15 000 $ aujourd'hui. Voilà, quand il évoquait les inégalités sociales, c'est comme si les parlements votent des lois, ils se servent eux-mêmes d'abord.
En fait, c'est parce que nous traînons sur pas l'essentiel. Je ne veux pas parler ici de salaire des gens, mais à supposer que ce soit le cas, c'est insignifiant par rapport aux défis de la nation. Ce n'est même pas ça ce qui va faire les routes ou les ponts. Ce n'est pas vrai. C'est insignifiant. On devait effectivement réfléchir plutôt sur comment élargir l'assiette des recettes et en faire une bonne répartition, j'en conviens. Mais ce n'est pas le salaire de 100 personnes ou même de 500 personnes qui peut changer le cours de l'histoire sur les inégalités sociales. Ce n'est pas vrai.
Voilà, alors on va poursuivre cette émission avec les auditeurs qui nous ont rejoints. Ils sont en ligne. Victor Mbanzangungu, bonjour Victor.
Bonjour Gérard.
Quelle est votre contribution?
Oui, c'est vraiment intéressant qu'on fasse un débat pareil. Simplement, moi je suis paysan, je suis agriculteur. Et je me demande, lorsqu'on parle de la décentralisation, il y a un auditeur qui a parlé de la décentralisation tout à l'heure, mais nous on a toujours attendu les élections à la base, qui ne viennent pas. Pourquoi nous les attendons? Simplement parce que la décentralisation, aujourd'hui, la centralisation au lieu de la décentralisation bloque tout. Et les parlementaires sont là, ils se contentent de la rétrocession que le gouvernement fait. Alors, qu'est-ce qui fait que dans les interpellations, on ne peut pas arriver à trouver une solution pendant qu'il n'y a rien à la base? Même le budget d'investissement est exécuté par le gouvernement central, le budget d'investissement dans les provinces. Je prends trois lois qui doivent être un peu très concrètes. La loi sur l'agriculture, par exemple. Depuis 2011, mais les mesures d'accompagnement ne sont toujours pas d'application et il y a même des investisseurs qui se sont imposés pour revoir l'article 16 où ils veulent s'attribuer toutes les terres du Congo alors qu'ils ont déjà pris toutes les terres agricoles, alors qu'ils ont déjà pris toutes les terres où il y a le minerai et la forêt. Mais voilà, le Parlement laisse faire, finalement, on a accepté et on ne s'imagine pas, on ne voit pas les 70% des Congolais qui vivent de l'agriculture. Il y a la loi aussi sur le minerai. Convenez la loi minière, le code minier. Convenez de changer. Vous imaginez tout ce que l'État congolais a perdu tout au long de ses mandats, les deux mandats passés, où on n'a pas pu revoir la loi minière. Et maintenant qu'elle revit, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera appliquée. Et là, même le président s'est plaint la fois passée où il a dit dernièrement à Lubumbashi que voilà, qu'on le dit, que voilà, il faut vite qu'il y ait des mesures d'application pour la loi minière. Je prends l'autre élément, le pétrole. Nos frontières, notre frontière avec l'Angola. L'Angola a toujours exploité notre pétrole. Mais au Sénat, puisque lui, il est là, il est sénateur, il y a le sénateur Silubangi qui a beaucoup plaidé sur cette frontière et le problème du pétrole à Mwanda avec l'Angola. Mais tout s'arrête à ce niveau-là. Donc, il y a un problème à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils n'ont pas joué vraiment leur rôle. Et la Cour des comptes qui faisait toujours ses rapports, mais voilà, à la fin, ils laissent passer le ministre
et
qui font n'importe quoi avec les finances publiques pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère. Donc, il y a un problème.
Oui, ben alors donc là vous évoquez les problèmes de courage sur des questions qui engagent l'État, toute une nation, oui. la nation toute entière. Vous disons de manière tacite, vous avez évoqué également la question qui avait divisé en fait la famille politique du chef de l'État à l'époque, lorsque il y a eu la patrouille conjointe entre la RDC et le Rwanda. Le Parlement n'a pas été saisi de l'information, et puis bon, ça a créé des problèmes, et ça a même occasionné le départ du président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Victor d'avoir appelé des bâtards. Voilà, Victor, merci. Alors, on va prendre Ernest Adematadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour, JR. Je crois que les autres ont dit beaucoup de choses, mais moi, je dirais que nos institutions, le Parlement, ils nous ont montré autant de spectacles que possible, mais aujourd'hui, parce que lorsque nous prenons le cas des lois sur la gratuité de l'enseignement, comme on l'a dit, il n'y a pas de mesure d'application. Aucun service de l'État congolais, lorsque vous êtes engagé, qu'on vous donne des avantages comme on donne à nos députés. Rien du tout. Mais pendant qu'ils sont en session ordinaire, et même extraordinaire, il y a des députés qui traînent les cas, par exemple, le matin, je vois les députés qui sont ici pendant que les amis travaillent. Je ne sais pas comment on les cote. Alors, lorsqu'on regarde les spectacles, le président de la République a changé autant de fois le programme d'action, révolution de la modernité, 5 chantiers. Mais ça passe sans pouvoir affecter les essences et la population d'ensemble. Dans quel état ils vont laisser ce pays? Dans quel état ils vont laisser ce pays? C'est ça le problème que nous posons.
Oui, Ernest. Oui, Ernest. Ernest. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de 186 lois, comme l'a dit d'ailleurs notre invité, 186 lois et plusieurs recommandations formulées par le Parlement. Je crois que ça, c'est quand même un point positif. Et tout le monde est d'avis qu'effectivement, il y a un faible contrôle parlementaire. Qu'il s'agisse au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Le Sénat parle des questions orales ou avec débat ou encore des questions écrites au niveau de l'Assemblée nationale avec des motions, soit même à aller jusqu'à la motion de défiance.
Il y a des lois votées, c'est en chiffres mathématiques, c'est 180, comme je l'ai dit. L'important, ce n'est pas de voter. L'important, ce n'est pas d'avoir une Bible. Il faut lire la Bible et se convertir. L'important, c'est de voter ces lois et avoir les effets sur la population, sur la nation. Vous avez par exemple les lois sur les mineurs. On donne les mineurs. Maintenant, aujourd'hui, ils prennent des mesures sur ces Ougènes là-bas. Vous voyez, on prend des lois sans pourtant qu'il y ait une étude d'accompagnement sur le terrain. Plusieurs lois ne font rien sur le terrain et les gens s'en moquent. C'est pourquoi on dit la personne n'a pas peur des lois et des autorités. On s'en moque. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Ernest, d'avoir appelé. Charles, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Charles.
Bonjour, JR.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Je tiens d'abord à vous dire merci, JR, pour la parole que vous m'accordez. Je profite aussi à saluer tous les auditeurs de la radio Okapi, des paroles auditeurs. JR, avant d'intervenir, je voudrais d'abord vous donner aussi l'écho de votre émission. Je crois qu'il y a une semaine passée ou deux semaines, vous avez parlé sur l'émission La Nuisance Sonore. Ça a payé cash, JR. Hier, j'étais de passage quelque part. C'était aux environs de 21h où j'ai vu la police en train de récupérer des baffles dans une barre qui faisait pas mal de bruit. Les gens ont tenté de corrompre la police, mais ils sont restés catégoriques, ils sont partis avec des baffles. Donc ce qui signifie que cette mission, l'État s'est quand même ressaisi et c'est une très bonne chose hier, il faut continuer comme ça.
Merci voilà. Beaucoup. Merci parce que là, nos témoins ont informé également que même au niveau de non seulement des bruits, mais l'action menée à ce moment par la police a eu quand même un écho favorable au niveau de Willery. Nous avons vu et même certains ajusteurs être débarqués, délocalisés. Et la police est intervenue de manière un peu énergique. Donc c'est quand même un résultat positif que nous devons encourager. Merci beaucoup. Alors Charles, quelle est votre contribution par rapport à ces débats?
Oui, JR, par rapport à la thématique du jour, c'est comme l'ont dit mes prédécesseurs. Je crois que les bilans, nous avons soit positif ou négatif, mais en ce qui concerne notre législature, le bilan est vraiment mitigé. Pourquoi nous disons que le bilan est mitigé? Parce que c'est nous qui devons d'abord sanctionner les gens qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont nos représentants. Quand nous disons que c'est mitigé, parce que nous ne sommes pas retrouvés dans tout ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Qu'est-ce que nous avons constaté par contre? Nous avons assisté à des spectacles désolants. Je prends rapidement un exemple. Lorsqu'il s'agissait des motions d'interpellation, il y avait des honorables députés qui faisaient les retraits de leur signature, ce qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dit, ils ne savaient pas pourquoi ils se sont retrouvés au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, c'est en rapport aussi avec la corruption. Nous en avons appris et nous avons même des preuves que souvent, ils étaient corrompus pour pouvoir défendre les gens qu'ils devaient en principe interpeller.
Oui, c'est certains députés, pas tous, qui monnaient, je crois, selon certains rapports, qui monnayaient leurs motions auprès de certains ministres. Merci beaucoup, Charles. On ne peut pas aller plus loin avec vous parce que le temps nous fait défaut. Omar, vous avez droit également à une minute. Omar, bonjour.
Bonjour, J.R. Merci de la parole. Je crois que le temps fait défaut. Mais puisque nous parlons du bilan parlementaire, permettez-moi quand même de saluer certains députés qui ont brillé par l'excellence ou encore certains sénateurs. Nous avons quand même échoué comme Henri Thomas Lokondo, l'honorable sénateur Moïse Nyarugabo, Arthur Sedeya, Toussé Alonga. Je ne les connais pas personnellement, mais lorsque nous suivons les débats, on se rend compte qu'en dépit de leur ambition politique, ils travaillent pour le peuple. Moi, je pense que je veux féliciter les parlements qui a produit législativement beaucoup de choses. Par exemple, je dis qu'il y a en main des affaires, on a la loi sur l'électricité, sur le...
Voilà, voilà, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible parce que là, il y a des micro-coupures. Merci beaucoup Omar, à la prochaine. Alors on termine avec vous Moïse Nyarugabo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a une rentrée parlementaire, c'est la dernière session avant les élections de décembre 2018.
Deux petites choses. La première, peut-être un petit mot sur tout ce qui vient d'être dit. On parle de la décentralisation, les élections locales. Écoutez, il y a déjà un calendrier de la CENI qui commence le 7 avril 2018. Le 18 mars 2019, il y aura convocation de l'électorat. Et le 22 septembre 2019, il y aura les élections locales et municipales. Espérons que ça se passe comme prévu et ce problème sera réglé en ce moment-là. Deuxième chose, on a beaucoup parlé des lois qui n'ont pas été exécutées. La loi de l'agriculture, la loi minière... Bon, le pétrole et tout ça. Effectivement. Mais ces lois ont été votées. Donc, je voudrais que vous puissiez appeler plutôt, faire une émission aussi avec le gouvernement pour demander pourquoi toutes ces lois n'ont pas encore connu d'exécution. Pourquoi il n'y a pas de mesures d'application? Pourquoi il n'y a pas d'arrêté portant exécution de ces lois?
Espérons que nous allons faire la même démarche.
À la responsabilité de contrôler le gouvernement. Et le Parlement l'a fait. Eux-mêmes, les intervenants, ont parlé des questions sur le pétrole en rapport avec l'Angola, avec l'Ouganda. Ces questions, vous avez suivi le débat au Sénat. Sur les mines, vous avez suivi le débat. Il y a eu même une mission du Sénat sur les mines. Qui a fait le tour du pays, le Katanga, le Kasaï et ailleurs. Les recommandations ont été faites au gouvernement. Bon, et on se limite là. Parce que même quand on fait les interpellations, les questions orales, avec débat ou sans débat, à la fin, nous faisons des recommandations. Nous n'avons pas justement ce pouvoir de voter
de censure.
On s'arrête là.
Merci beaucoup, Moïse Nyarugabo, d'avoir accepté notre invitation. Et nous rappelons que vous êtes rapporteur adjoint au niveau du Sénat. À très bientôt.
À bientôt.
Mais ils ne répondent pas.
On se quitte par ici en disant merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Noël Mokondo, Nico Kalambay et Piroué Lameji sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce magazine vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Merci de rester avec nous.